carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, une histoire de transmission. Aujourd'hui, le silence de beaucoup des appelés de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962 a perduré jusqu'à nos jours, comme si ce qui s'y était passé ne pouvait être dit ou ne voulait pas être entendu. Claire et Laurence Ponty ont retrouvé le journal de leur père après sa mort, Bernard Ponty, artiste peintre et écrivain, et elles ont pris la décision de le publier. Algérie 1960, journal d'un appelé chez Grasset, permet d'écouter cet homme, instituteur et infirmier le jour, soldat la nuit, être confronté à l'horreur de la guerre et de la torture et en sortir transformé. La question de la transmission, elle passe également par les historiens. Rencontre cette semaine avec Alain Ruscio qui publie à la découverte la première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852. Le récit détaillé de deux décennies d'une grande violence et d'une résistance que les Français n'avaient pas imaginée. Mais d'abord, retour au tournant des années 60 en pleine guerre d'indépendance.
Est-ce que tu as une idée de ce que tu fais ici? Tu as été blessé, tu as souffert, tu as marché. Qu'est-ce que tu fais ici?
C'est une question assez difficile. Je fais ici, en principe, je fais mon devoir.
Claire et Laurence Ponty, bonjour.
Bonjour.
Deux voix pour raconter une histoire, l'histoire du livre que vous avez retrouvé dans la maison familiale, le journal de votre père, 1960, un journal écrit en Algérie, le journal de Bernard Ponty. Comment est-ce que vous avez découvert ce manuscrit ?
Alors, ce manuscrit, donc, on l'a retrouvé en 2021, quelques mois seulement après le décès de notre père, donc Bernard Ponty, qui était peintre et écrivain. Et c'est vrai qu'on l'a retrouvé de façon assez particulière, puisque c'était au hasard d'un déménagement, voilà, dans une maison familiale, c'était pas chez lui. Et ça nous a fait un drôle d'effet, parce qu'il se trouve que ces dernières années, on avait essayé de l'inciter à écrire, tout d'abord, sur cette période de sa vie qu'on connaissait finalement très mal. Enfin, ce qui nous avait marqué, c'est qu'il avait été instituteur là-bas. Et c'était déjà une première énigme, en fait, pour nous, enfants, parce qu'on se demandait comment il avait pu à la fois s'occuper d'élèves et prendre part au combat. Et plus récemment, les mois qui ont précédé son décès, j'avais essayé de le faire se confier oralement sur cette période de sa vie pour au moins recueillir ses souvenirs et sa mémoire, ce qui était vraiment important pour nous. Et malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. Donc, quand on est tombé sur ce texte, qui est exactement ce qu'on attendait, ce qu'on recherchait, ça a été une sacrée surprise.
Laurence Ponty, pour vous, votre souvenir de la découverte de ce manuscrit, c'est exactement le même que celui de votre sœur. Il faut préciser, vraiment, cet avant-propos, vous l'avez écrit toutes les deux, mais il est écrit à la première personne du singulier.
La découverte du livre, ça a été un petit peu différent pour moi, puisque c'est Claire qui a trouvé le manuscrit. Et Claire s'était inscrite dans une démarche assez proactive, comme elle l'a expliqué, puisqu'elle avait cherché vraiment à faire parler notre père. Moi, j'avais essayé un petit peu de l'aider dans ce sens et de demander effectivement à notre père de parler de temps à autre. Mais j'avais essayé de ne pas trop insister sur cette période. Je sentais que c'était très douloureux pour lui. Et en revanche, ce que j'avais essayé de faire, c'était de retranscrire un petit peu par écrit les sentiments qu'il avait pu éprouver pendant cette période. Et effectivement, une chose, Claire l'a déjà dit, qui m'a beaucoup interrogée depuis que j'étais toute petite, c'était cette combinaison entre les rôles qu'il avait pu jouer en Algérie. Ça m'a toujours beaucoup intriguée, ce rôle de soldat, mais également d'instituteur, d'infirmier. Je n'arrivais pas à comprendre. Pour moi, la guerre, c'est des ennemis de part et d'autre qui se battent, mais il n'y avait pas de mélange des genres. Et ça me perturbait beaucoup.
Est-ce qu'il fallait être finalement deux pour accueillir le choc de ce journal, parce qu'il explique justement ces rôles d'infirmier, d'instituteur, de soldat, et il décrit des événements qui sont terriblement tragiques?
C'est vrai qu'on a réalisé à quel point il avait souffert. On savait, bien sûr, on s'imaginait qu'il avait dû vivre des choses très dures, mais ça restait très abstrait. Donc, effectivement, en découvrant les pages de ce journal, on a pris conscience de certaines choses. On en avait eu l'intuition, mais voilà, ça a été confirmé et renforcé. Et on n'a pas eu forcément la même façon de lire le texte. Moi, je sais que je l'ai lu d'une traite et en me disant, bon, c'est ce qu'il a lu le plus fort. Et j'ai voulu tout de suite entreprendre une démarche de publication. Je me suis dit, ça dépasse la sphère familiale, la sphère de l'intime. Il faut qu'on fasse connaître ce texte. Et toi, Laurence, tu as mis un peu plus de temps à digérer tout ça.
Oui, je l'ai lu trois pages par trois pages. J'ai eu du mal, effectivement, à encaisser toute la violence qui est relatée dans le livre. Et puis, bah, ça nous touchait encore plus personnellement, évidemment. Ceci dit, pour revenir sur la question de pourquoi on a réussi à unir deux sensibilités, c'est qu'en réalité, quand on a commencé à écrire... De part et d'autre, on s'est rendu compte que c'était très complémentaire et que ça s'enchaînait bien. Il y a aussi une différence d'âge assez importante entre nous deux. On a 8 ans d'écart. Du coup, il y a certaines expériences qui ont été différentes. Et en fait, le tout s'est très bien combiné.
On voit vraiment un jeune homme arriver et se transformer en homme, se transformer en adulte. Pas meilleur, pas pire, hein.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a une vraie évolution de notre père tout au long de ce journal. Alors, il arrive avec la ferme volonté de fuir l'action, de rester éloigné de cette guerre, de continuer à rêver seul dans son coin. Ce journal, d'abord, c'est une question de survie pour lui. Il le dit, quand je n'écris pas, je suis anxieux, je suis méconnaissable. C'est aussi une façon de se confesser à lui-même et de régler ses comptes avec lui-même. Mais donc, comme vous dites, c'est un passage aussi très cruel, mais à l'âge adulte, ce texte. Et il va être confronté donc à des dilemmes très lourds, à des questionnements philosophiques sur la question du choix, de la liberté, de la prise de position, du courage. Et donc, il va devoir quitter cette espèce de mue adolescente. Il parle beaucoup d'adolescence, pas forcément dans un terme péjoratif d'ailleurs, mais voilà, il doit quitter ce monde-là. Et ces questions-là confèrent, je pense, au texte, en fait, une dimension vraiment universelle et qui dépasse le champ de la guerre d'Algérie.
Vous faites la comparaison avec ce qui peut se passer en Ukraine aujourd'hui.
Oui. C'est toujours difficile d'établir des comparaisons, mais ça fait quand même écho. On pense à l'Ukraine comme une terre finalement qui est considérée comme une colonie par la Russie. Et on pense aussi d'autre part aux appelés russes, qui d'ailleurs ont entre guillemets déserté en masse, qui sont partis à l'étranger pour ne pas se battre. Et ça fait des années d'ailleurs que c'est le cas, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la Tchétchénie, et qui n'ont pas du tout envie d'aller se battre pour une cause qui leur semble pour certains absurde.
Ça a été le cas de votre père. Évidemment, le premier passage où il est confronté à la torture, et les pages s'accumulent et on ne sort pas de ce cauchemar et il n'en sort pas non plus. Je pense que c'est le moment, en tout cas pour moi, qui a été le plus éprouvant à la lecture de ce livre. Pour vous aussi, vous imaginiez qu'il avait pu devoir vivre ça?
Alors, on avait eu l'intuition qu'il avait vécu des choses très dures parce qu'il l'avait quand même évoqué, mais sans jamais rentrer dans les détails. Je pense que d'une part, c'était douloureux pour lui. D'autre part, il voulait nous épargner, très certainement. Ce qu'on a réalisé, c'est l'ampleur, le rythme. On ne pensait pas que c'était aussi fréquent, en tout cas, dans son cas à lui. On n'avait pas conscience de ça. On savait, tout le monde le sait maintenant, que...
Oui, depuis le début des années 2000, on a levé le voile sur l'utilisation
exactement.
De la torture en Algérie par l'armée
Mais
française.
Mais on entendait avant tout parler de la GIGN, par exemple. Mais là, en fait, on s'aperçoit, quand on lit ce livre, qu'il y a toute une panoplie de méthodes qui étaient utilisées et qui consistaient notamment à épuiser, affamer les détenus pour ensuite... les soumettre à des séances de torture et les faire craquer plus facilement.
Vous avez montré, avant de le proposer à un éditeur, vous avez montré ce journal à Raphaël Branche, qui est une grande spécialiste de l'Algérie, grande historienne française. Pourquoi, Claire Ponty?
J'avais envie d'avoir l'avis d'un expert, si je puis dire. Sur l'aspect littéraire, ça, j'avais aucun doute que je le soumettrais un jour, et Laurence en était d'accord. Pour être édité, mais l'avis d'une historienne comptait beaucoup, forcément, pour qu'elle me dise, voilà, est-ce que ce texte, j'en ai lu des semblables, est-ce qu'il est particulièrement original, est-ce que, voilà.
C'est elle qui a rédigé la préface, qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle a reçu ce journal?
Elle m'a dit que c'était un témoignage très fort.
D'un point de vue historique, elle a effectivement pu recouper avec d'autres témoignages qu'elle a lus, sur la pratique de la torture notamment. Elle-même n'a rien découvert de particulier, mais je pense qu'elle a été touchée par la mise en perspective.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle travaille aussi beaucoup sur les problématiques liées à la transmission dans les familles. Donc je pense aussi qu'elle a été interpellée par notre démarche à nous en tant que fille, avec notre père qui n'était plus là. Et ça, je pense que ça l'a particulièrement touchée et intéressée.
Vous êtes fière de votre père aujourd'hui? Vous êtes fière de ce qu'il vous a laissé comme héritage?
Oui, on en est fiers et ce dont je suis d'autant plus fière, c'est que il a eu le courage dans ce livre, même si de son vivant, ça n'était sans doute pas destiné à la publication, mais d'être assez honnête avec lui-même. Lorsqu'il s'est senti impuissant, il s'en est voulu. Il n'a pas essayé de se cacher, oui, de se présenter comme un héros. Non, il essaye de poser des questions que sans doute tout être humain normal se poserait. Et ça interroge sur qu'est-ce que nous, on aurait fait dans une situation pareille.
Oui. Et on est fiers de ce don décalé en fait, qu'il nous fait, hein, pour reprendre les mots de Raphaël Branche dans sa préface. On était déjà fiers de lui en tant qu'artiste, il était peintre, écrivain, on était déjà très fiers de son œuvre. Et ça aide hein, d'ailleurs dans le deuil d'avoir toutes ses œuvres. Mais cette découverte, ça a été un petit miracle pour nous. Et oui, on en est très très fiers.
Carrefour du Maghreb.
Au-dessus de la plaine d'Egris, on vient d'inaugurer le monument élevé à la mémoire de l'émir Abdelkader. Désormais fixé dans la pierre, on peut lire sur la stèle les paroles qui constituent le testament politique de l'émir et qui exhortent musulmans et chrétiens à devenir frères.
L'opposition farouche des Algériens pendant la guerre d'indépendance, la violence partout, la torture pratiquée par l'armée française ont des racines anciennes. Bonjour Alain Russio.
Bonjour.
Dès 1830, au moment de la conquête, les affrontements entre l'armée française et la société algérienne seront d'une extrême intensité. C'est une histoire de conquête et de résistance que vous racontez dans votre livre « La première guerre d'Algérie » publié à La Découverte.
Oui, le paradoxe, c'est que la conquête, la prise d'Alger ont été extrêmement rapides. Et il y a eu dans la société algérienne ce que j'ai appelé un état de sidération, pour une raison qui est facile à comprendre, à savoir que l'ancienne structure dominante, c'est-à-dire l'Empire ottoman, des hauts fonctionnaires turcs ont été immédiatement vaincus et ensuite évincés d'Alger. Les survivants ont pris le bateau et sont repartis à Constantinople. Et la société algérienne était donc en état de sidération. Il a fallu 2 années pour qu'il y ait une structuration, un regroupement des tribus qui ont élu donc un chef qui s'appelait Abdelkader, dit l'émir Abdelkader. La violence a commencé à ce moment-là. Dès lors qu'il y a résistance, il y a violence.
Vous parlez de la société algérienne, ça veut dire qu'il y a une nation algérienne déjà qui existe à ce moment-là?
Je suis très prudent à la suite de beaucoup d'historiens. Société, oui. Élément progressivement structurant d'une nation, oui. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que cette résistance a permis à Abdelkader et à celui qui est oublié par l'historiographie, qui s'appelle l'émir Ahmed, qui lui était à l'est de l'Algérie, du côté de Constantine, à ces deux leaders d'opposer à l'armée française qui était d'une puissance inimaginable aujourd'hui. Il y a eu jusqu'à 100 000 hommes sur le terrain, au moment par exemple du maréchal Bugeaud. 100 000 hommes d'une armée qui était puissamment armée, immensément supérieure en armes et en organisation aux cavaliers d'Abdelkader et d'Ahmed, et pourtant la résistance a duré 15 années. On ne peut pas comprendre cette résistance s'il n'y avait pas effectivement des éléments d'appartenance à une entité. Alors est-ce que cette entité s'appelait déjà Algérie? C'est sujet à caution, mais en tout cas il y avait cette volonté de résister à l'étranger, aux Roumis, puisque le mot Roumi, qui est une réminiscence ancienne à la domination romaine pré-islamique, cette résistance a été littéralement portée par ces deux hommes et soutenue. Il y a des aspects de guerre populaire. Je fais un parallèle avec la résistance de Jugurtha, qui est au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc contre les Romains. Et Abdelkader était en quelque sorte le nouveau Jugurtha. Et on trouve, par exemple, avec une certaine surprise, dans la prose d'un jeune poète qui s'appelait Arthur Rimbaud, alors qu'il était encore lycéen, qui assimile Abdelkader à Jugurtha. Donc avec une certaine lucidité que n'avaient pas forcément tous les observateurs et encore moins les officiers de l'époque.
Vous parlez d'une armée de 100 000 hommes pour défendre combien de colons?
Les deux premières décennies, il y avait d'abord peu d'Européens, beaucoup moins que de soldats. Et autre paradoxe, c'est que jusqu'à 1848, il y avait plus de colons maltais, italiens, espagnols, allemands que de français. Et surtout également des va-nu-pieds qui sont arrivés en masse et qui d'ailleurs posaient des problèmes aux gouverneurs généraux qui disaient « Mais pourquoi envoyez-vous ces gens en haillons ?» Ce que j'ai appelé dans le livre le « Lumpen Colonna » avec un clin d'œil à un concept marxiste. Donc ces gens-là étaient complètement démunis et je pense avoir démontré que outre la population algérienne, qui a quand même été éradiquée de l'ordre de 12 à 13%, quand même, c'est quand même énorme dans l'histoire, c'est encore rarissime. Outre la population algérienne, les premiers colons ont été également des victimes collatérales, parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, et la mortalité était également très importante, ne serait-ce que par l'apport, évidemment involontaire, de maladies. Par exemple, le choléra n'existait pas en terre africaine avant l'arrivée des colons.
Pourquoi est-ce que la France va laisser perdurer cette situation? Quel est l'intérêt des Français?
La cause de départ, elle est géostratégique. C'est la volonté d'enquiquiner les Anglais. Je rappelle que les Anglais étaient déjà bien sûr à Gibraltar. L'île de Malte était une colonie anglaise et la flotte anglaise était nettement supérieure à la flotte française. Donc, il y avait une sorte de lac anglaise qui était pour les Français une aberration. Les Français, qui à l'époque, n'avaient que Marseille et Toulon. Donc, il fallait une implantation au nord de l'Afrique. Il y a bien d'autres causes. Il y a la notion de mission civilisatrice. Dès cette époque apparaît la notion de race supérieure qui a comme mission de civiliser des races inférieures, au besoin au forceps, la notion également de lutte contre la pauvreté. Napoléon Bonaparte a écrit un essai sur l'extinction du paupérisme. La pauvreté était galopante et la pauvreté était dangereuse pour les classes dominantes, d'où l'apparition, par exemple, du drapeau rouge sur les premières barricades des canuts lyonnais. Voilà, il y a tout un faisceau de causes qui font que l'implantation en Algérie était d'une part une nécessité et d'autre part est devenue progressivement une implantation de colons.
Vous avez mentionné tout à l'heure Abdelkader, vous avez mentionné ces résistants de la première heure. Ils vont avoir des héritiers jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la guerre d'indépendance algérienne de 1954.
Oui, j'aurais pu même donner un autre titre à mon livre, j'aurais pu l'appeler le début de la guerre d'Algérie, puisqu'en réalité, il n'y a jamais eu de cessation de la résistance. Alors, certes, non armée par la suite, après l'extinction des résistances d'Ahmed et d'Abdelkader, ensuite la grande révolte kabyle de 1871, après les Français ont pu penser qu'ils étaient arrivés dans une période de calme, de pacification. Mais il y avait toujours comme une sorte de rivière souterraine qui est réapparue le 1er novembre 1954, mais qui ne s'est jamais tari. Il y a eu toujours des mouvements, soit politiques, la plupart du temps clandestins. Je pense par exemple au Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui a été un petit peu le précurseur du nationalisme politique. Et donc, à un certain moment, ce nationalisme politique, voyant la multiplication des impasses et l'impossibilité d'évincer la France politiquement, pacifiquement, est passé à la lutte armée. Je rappelle quand même l'antériorité de la guerre d'Indochine. Dien Bien Phu, c'est le 7 mai 1954 et l'insurrection algérienne, c'est le 1er novembre 1954. Donc, il y a forcément un lien. Les Algériens n'avaient pas attendu les Vietnamiens, mais malgré tout, il y a eu un petit peu cette étincelle. Voilà, l'étincelle qui a mis le feu à toute la plaine selon une formule bien connue. Je pense que la résistance algérienne a été permanente et a pris des formes différentes.
Merci beaucoup Alain Ruscio.
Merci à vous.
L'émir Abdelkader, figure qui a traversé les siècles, chanté ici lors du concert 1, 2, 3 Soleil. Abdelkader dans Carrefour du Maghreb, réalisation Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur Pure Radio, sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute.